Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à vous tous qui écoutez Mélomanie, anciens et nouveaux auditeurs du magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Une actualité foisonnante ces temps-ci, il n'est pas exagéré d'utiliser cet adjectif, tant les concerts s'enchaînent quand ils ne se bousculent pas la même journée. Nous allons toutefois essayer d'en donner le panorama le plus juste et le plus complet possible lors de ce numéro, pour lequel je suis ravi d'avoir le soutien érudit et avisé de mes amis mélomaniaques. Ils sont deux aujourd'hui pour m'aider à présenter et commenter cette actualité pléthorique. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et son alter ego Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Pour ce numéro, Mélomanie reçoit aussi un invité d'honneur, Christophe Geyler, violoniste de l'ensemble baroque de Toulouse et de l'ensemble Sonatori, dont nous allons longuement parler plus tard au cours de ce numéro. Bienvenue à tous les trois et merci pour votre présence dans ce studio. Sans plus tarder, nous allons nous replonger dans les événements musicaux de la semaine dernière en abordant maintenant la première partie de cette émission.
Mélomanie, retour arrière.
Et dans l'actualité musicale récente et même à venir, il y a la Valkyrie au Théâtre du Capitole, où les représentations de l'opéra de Richard Wagner vont se poursuivre jusqu'au 11 février. La première a eu lieu mardi, et Serge Chauzy et Robert Pénavert y ont assisté, ce qui va nous permettre d'en parler et de comparer les impressions, les sentiments de l'un et de l'autre. Qui veut ouvrir la discussion après avoir découvert cette production et cette nouvelle distribution au Théâtre du Capitole? Je vous vois vous faire des politesses, mais il y en a un qui va devoir commencer. Alors, qui se lance?
Bon,
Robert
okay.
Pénavert.
C'est moi qui m'a... Je ne sais pas trop pourquoi Serge ne veut pas démarrer, mais enfin bon, moi je me jette à l'eau. Et il n'y a pas de problème. Hein. Alors, premièrement, dire que... Aller à une représentation à la Valkyrie, c'est toujours une grande fête, parce que c'est rarement donné, cela fait 20 ans que cet opéra n'avait pas été donné à Toulouse, et puis quoi qu'il en soit, la Valkyrie, c'est un titre magique. Alors c'est magique pour plusieurs raisons, parce que premièrement, cela fait partie d'un monument de l'art lyrique, qui est la tétralogie, c'est Richard Wagner, et puis c'est particulièrement magique à Toulouse, parce que en 1999, avait été inaugurée une nouvelle production, mise en scène par Nicolas Joël, et donc, très clairement, la Valkyrie était pour moi le sommet. Et donc, c'est bien sûr cette production qui est reprise cette année. Et c'est avec vraiment un très, très grand plaisir que nous l'avons retrouvée. N'est-ce pas, Serge?
Absolument. Oui, oui, oui. Vraiment un événement chaque fois, oui.
Mais là, autant en 99, cette Valkyrie s'inscrivait dans une tétralogie qui était donnée, il y en avait un épisode tous les ans. Cette année, non, ça sera simplement la Valkyrie. D'ailleurs, comme très souvent, la tétralogie est un tel monument à monter que très très peu de théâtres le font dans une saison. Et des quatre opéras qui constituent cette tétralogie, 9 fois sur 10, c'est la Valkyrie qui est donnée séparément. Alors en fait, pourquoi pas? Parce que dans la Valkyrie, pour ceux qui n'ont pas vu L'Or du Rhin, qui est l'opéra qui précède dramaturgiquement la Valkyrie, eh bien, au deuxième acte, Wotan raconte tout ce qui s'est passé dans L'Or du Rhin. C'est une espèce de séance de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là à L'Or du Rhin. Alors, pour ces reprises cette année, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais tous les personnages sont très importants. Il y en a 6, et parmi ces 6 personnages, 3 chantaient le rôle pour la première fois. Et ce n'était pas rien, parce que c'était Siegmund, Brunhilde, personnage central de la tétralogie, et Sieglinde. Personnage que l'on retrouve, comme Siegmund d'ailleurs, que dans la Valkyrie. Mais enfin, ce sont deux rôles, puisque ce sont des jumeaux, ce sont deux rôles extrêmement importants, importantissimes même, pourrions-nous dire, et deux rôles très très difficiles qui marquent toujours, pour un chanteur, une étape importante dans l'évolution de sa carrière. Alors, entendons-nous bien, mardi dernier, c'était la première fois qu'il s'exposait en public dans des rôles redoutables, mais vraiment redoutables. Alors, est-ce que c'est le stress, moi, à mon avis, c'est ça, qui a fait que sur scène, on n'a pas retrouvé l'allant que nous avions retrouvé en 1999 lorsque Nicolas Joël avait réglé lui-même cette production cette année. C'était sa mise en scène, évidemment, mais réalisée par quelqu'un d'autre. Et donc, en particulier au premier acte, qui est un bijou absolu, un chef-d'œuvre, finalement, il ne se passait rien sur scène. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, c'est vrai, deuxième, troisième acte, ça s'est un peu animé. Il faut dire que l'action elle-même s'anime beaucoup plus, alors que le premier acte, c'est vraiment un acte où les deux jumeaux vont se retrouver. C'est un acte très intime, finalement. Et là, il faut vraiment avoir un metteur en scène qui tienne ces chanteurs, qui leur fasse faire des choses. Parce qu'effectivement, si on ne leur fait pas faire des choses à des chanteurs qui sont rivés sur le chef d'orchestre, tellement ils ont peur de ne pas attraper un départ. Et ça, c'est compréhensible. Hein, des rôles pareils, moi, je le comprends parfaitement. Ce qui fait que, au point de vue scénique, on n'a pas eu la même émotion qu'il y a une vingtaine d'années. Serge, qu'est-ce que tu en penses ?
Tout à fait d'accord. C'est effectivement le cas. Il y avait les mêmes beaux décors, les mêmes beaux costumes, les beaux éclairages, mais les personnages étaient un peu figés. Oui, ça c'est tout à fait vrai.
Bon, j'imagine que au fur et à mesure des représentations, les choses vont s'améliorer.
C'est ce que j'allais dire. C'était la première. N'oublions pas que c'était la première. Et
voilà.
Quatre représentations.
Voilà.
Après.
Mais bon, Eric, vous nous avez invité pour parler de la première. On peut pas.
Évidemment, vous ne pouvez pas parler de ce qui éventuellement il y aura après qui pourrait être mieux que ce que vous avez vu.
Alors ensuite les chanteurs.
Voilà. Les solistes.
Les solistes.
Les rôles principaux.
Alors nous allons démarrer par ceux qui prenaient leur rôle, hein, parce qu'après tout, ils le méritent bien. Donc, comme je disais, il y a vraiment un personnage central dans la tétralogie, c'est Brünnhilde. C'est ce qu'on appelle les sopranos noirs par rapport aux sopranos blonds wagnériens. Les sopranos blonds sont des sopranos un peu plus légers, un peu plus sympathiques, comme Elsa, Eva, bon, etc., Elisabeth. Mais elle, c'est un soprano noir, c'est-à-dire c'est le soprano dramatique qui réclame une voix de stentor développée sur deux octaves. Et elle a ces fameux cris de guerre qui est son chant d'entrée, si l'on peut dire, dans lequel vont se balader quatre contrutes absolument phénoménaux. En plus, c'est très orchestré, hein, et sans parler des si naturels, si bémol. Enfin, c'est quelque chose qui est quasiment inchantable. Hein. Bon, voilà, cette année, c'est une débutante dans le rôle, hein, qui nous a fait ça, qui a chanté ce rôle. Et en plus, c'est une mezzo-soprano russe qui s'appelle Anna Smirnova. Et je dois reconnaître qu'elle a une voix que je qualifierais de tellurique. C'est impressionnant. Alors, c'est une voix, je ne dirais pas que c'est de l'acier, mais c'est au moins de l'airain. Elle traverse l'orchestre, elle perfore, je crois qu'il y aurait eu 200 musiciens dans la fosse, elle s'en serait moquée complètement. Elle a un aigu vertigineux qu'elle émet toujours en force. Alors, mon problème, c'est qu'en fait, Brünnhilde, ça ne peut pas être que le cri de guerre de la Valkyrie. Brünnhilde, c'est un personnage qui évolue. Et en particulier, il ne faut pas oublier que c'est elle qui va sauver Sieglinde parce qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte de Siegfried. Donc, elle va sauver Sieglinde. Elle va lui donner l'épée Nothung en deux morceaux et elle va la faire partir dans la forêt où se cache Fafner, le dragon de l'or du Rhin, et là où Wotan, a priori, ne souhaite pas trop aller. Il a bien des raisons pour cela. Donc, c'est une vierge guerrière, mais dont la psychologie évolue énormément parce que son job, en fait, c'est d'aller récupérer des cadavres de héros sur les champs de bataille. Bon, c'est pas tout à fait une Barbie, hein. C'est quand même un autre personnage. Hein. Et là, on va apercevoir de l'évolution psychologique, ce personnage qui doit se sentir également dans la voix, dans le phrasé, dans les nuances. Alors bien sûr, elle essaie de faire des choses, mais moi je pense qu'elle est un peu à la limite de ses possibilités de soprano. Et donc de ce fait, les aigus sont émis en force. Et de ce fait, on n'a pas assisté à trop de dynamique dans l'émission.
Au fil de l'opéra qui est très long,
voilà,
ça doit en plus.
Voilà,
en plus
voilà. Moi, je regrette un peu ça, mais bon, c'était une prise de rôle, c'était une première. Bon, elle est jeune, elle a 36 ans. Hein. 36 ans, une première Brünnhilde.
Pour ce rôle, oui, bien sûr.
Serge.
Oui, oui, tout à fait. J'ai bien apprécié, hein, mais c'est effectivement, elle va affiner un peu son interprétation.
Oui. Oui, elle ne peut pas se contenter de chanter tout Brünnhilde comme son cri de guerre. Quoi. Enfin, ça, c'est pas possible.
Il faut que les états d'âme du personnage, on les ressente au fil de l'évolution.
Eric, c'est exactement ça.
C'est exactement ça.
Et essayer de colorer un peu son chant, de voir son émotion. Je dis encore une fois, c'est une prise de rôle. Ensuite, il y avait les deux jumeaux étaient des prises de rôle également. Dans le ténor, c'est un ténor allemand, il s'appelle Michael Koenig. Alors lui, il est plutôt interprète de ténor wagnérien un peu plus léger, c'est-à-dire Lohengrin et Eric du vaisseau fantôme. Il a assuré, il n'y a pas de problème, mais là, encore une fois, je pense qu'il était sous le poids du stress et on n'attend pas forcément le Siegmund dans les Vels, quand il appelle papa au secours. Alors ça, il les a tenus ad libitum, presque. Le chef d'orchestre avait baissé la baguette parce qu'il attendait qu'il ait fini, mais en fait, ils peuvent, en plus ça fait plaisir au public, donc c'est pas des notes difficiles à donner. Quand l'interprète en a la capacité, il fait plaisir à tout le monde. Mais par contre, là où nous attendons le thème, non, c'est dans le chant du printemps. Et là, il n'était pas là. Il a chanté le chant du printemps, bien sûr, mais toute la fièvre qu'on attend dans ce chant du printemps, parce que là, il est envahi par tout un tas de sentiments moraux et également peut-être charnels aussi. Hein. C'est le printemps, c'est la sève, il est à côté d'une jeune femme. Et, ben ça, on ne l'a pas trop senti. C'est bien dommage, mais encore une fois, c'est prise de rôle. Hein. Bon, troisième prise de rôle, Sieglinde, oui, sa sœur. Bon, alors, Daniela Sindram est un mezzo allemand. Alors, notre mezzo, on avait trois mezzos sur scène. Pourquoi pas, hein. C'est une soprano que l'on a déjà vue à Toulouse à deux reprises. Elle chantait en 2012 Adriano dans Rienzi, qui était un rôle travesti. Et on l'a revue en 2015 dans Brangen, Tristan et Isolde. Elle chante partout. Son répertoire est vraiment un répertoire de mezzo. Elle porte très bien, d'ailleurs, le travesti. Elle chante souvent Octavian. Elle chante souvent le compositeur dans Rihanna Naxos, mais elle chante aussi très souvent Frica. Et là, bon, bah, vous savez, comme beaucoup de mezzo, au bout d'un moment, elles veulent s'essayer à des rôles de soprano qui peut-être dramatiquement leur conviennent un peu plus, les font changer de répertoire, de partenaire, etc. Bon, bah, là, je reconnais, c'est une belle prise de rôle. Alors, elle, par contre, est très émouvante. Elle est émouvante scéniquement, elle est émouvante dans son chant, elle est émouvante dans la dynamique de son phrasé, dans sa musicalité. Alors, en même temps, est-ce qu'elle est faite pour être soprano? Moi, je ne sais pas. Il faut qu'elle fasse très attention à ce changement. Hein. Mais enfin, c'est elle le meilleur juge pour ce genre de péripéties. Alors, les autres rôles, il y en a un, je pense que Serge ne va pas me donner tort, mais qui nous a un peu surpris, je crois que c'était un peu l'unanimité autour de nous, c'est le Wotan. Alors, c'est un baryton basse polonais, Tomasz Konieczny, qui chante partout. Mais j'ai remarqué que dans sa carrière depuis près de 20 ans, il alterne Alberic et Wotan. Voilà.
Il y avait beaucoup d'Alberic dans son Wotan.
Et malheureusement, il y avait, à mon sens, un peu trop d'Alberic dans son Wotan. Serge, veux-tu dire un mot?
Ah, tout à fait vrai. D'abord, il a un timbre pas très flatteur, dirons-nous. Et c'est vrai, on avait l'impression d'entendre Alberich qui lançait ses imprécations, quoi, plutôt qu'un dieu. Wotan est quand même un dieu, il doit avoir une certaine noblesse. Et là, la noblesse était un peu absente. Donc là, vraiment...
Et dans la voix, et dans la prestance, vous voulez dire?
Tout à fait, il s'agitait un peu trop, à mon avis. Et puis, vocalement, il arrive parfaitement à toutes les notes, hein, sans problème. Mais c'est un peu tonitruant, quand même.
C'est tonitruant, et en même temps, ce n'est pas joli de timbre.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire c'est très métallique, il y a des sons qui ne sont pas vibrés, c'est très désagréable. Alors à la fin, dans les fameux adieux de Wotan, bien sûr, il y a deux ou trois passages qui donnent, non pas en demi-teinte, mais un peu en mixte appuyé. Non, ce n'est pas tout à fait une demi-teinte, mais enfin bon, il essaie de mettre un peu d'émotion lorsqu'il dit adieu à sa fille, mais ça ne suffit pas à rattraper tout un rôle. Alors ensuite, honnêtement...
C'est un dieu qui ne chante pas tout à fait assez divinement pour qu'on y croie.
Oui, ça très clairement, oui, très clairement. Manquer d'élégance, enfin, à tous les points de vue. Par contre, alors, les deux derniers que je vais citer, ce n'est pas deux petits rôles, ce n'est pas ça, mais deux rôles finalement relativement secondaires par rapport à ceux que nous venons d'évoquer. C'est Unding, c'est une basse russe que l'on connaît à Toulouse, il s'appelle Dimitri Ivashenko, qu'on a entendu une première fois en 2010, il chantait le roi Louis dans Riante, puis on l'a entendu ensuite en 2016, il chantait dans les Noces Figaro, il faisait Bartolo, mais évidemment c'était un Bartolo de luxe, de grand luxe d'ailleurs, hein. Et ensuite la saison dernière, il chantait Zacharie, l'Anabaptiste dans Le Prophète, où il avait été magnifique aussi, mais dans sa carrière, très clairement, c'est un mozartien. Alors évidemment, il a le phrasé d'un mozartien, c'est très bien. Mais à mon sens, il n'a pas le creux et la noirceur que l'on attend de Unding. Alors c'était très beau, je serais presque tenté de dire c'était trop beau pour une espèce de brute infâme qu'il est censé incarner. Et puis pour moi, alors je crois que Serge n'est pas d'accord, donc ça va être intéressant qu'il s'exprime là-dessus. Pour moi, la pépite de la distribution, c'est une mezzo-russe, Elena Zitkova, qui faisait Frica. Alors elle, bien sûr, j'ai peut-être été ému par un physique...
Tiens donc.
Assez hollywoodien, il faut le reconnaître. En plus, avec un costume qui lui va à ravir. Elle est très souple en scène, elle est très vibrante, et puis son chant. Alors, ce n'est pas une immense mezzo, mais il n'empêche qu'elle a tous les rôles de mezzo wagnérien à son répertoire, absolument tous, et qu'elle chante très très régulièrement. Pour moi, la vraie pépite, c'est ça, la couleur, la rondeur, l'homogénéité de la voix, l'impact dans la projection, le poids qu'elle donne aux mots. Ben voilà, la grande wagnérienne, pour moi, il ressort.
Donc Robert est tombé sous le charme, et vous, Serge?
Oui, c'est une excellente chanteuse. Moi, j'ai trouvé que son incarnation de Frica était un peu trop mégère. Elle aussi, je trouve qu'elle manquait un peu de noblesse. Bien que ce soit une sorte de scène de ménage qu'elle a avec Votan, c'est quand même une scène de ménage entre deux dieux. Et donc là, je trouvais que ça manquait un peu. Mais vocalement, c'est évidemment superbe.
Un petit mot sur l'Orchestre du Capitole et la direction de Klaus-Peter Flohr.
Alors, Klaus-Peter Flohr, bon, c'est un grand chef qui dirige beaucoup Mozart. Et ça s'est senti en particulier dans le premier acte, où certains ont pu regretter le manque de passion, mais où, grâce à sa direction, on a entendu des éléments de l'orchestre que l'on n'entend pas toujours. La harpe solo, le violoncelle solo, la clarinette. Donc c'était une vision un peu analytique. Par la suite, au deuxième et troisième acte, sa direction a pris du muscle, hein, très nettement. Et donc, moi, je suis tout à fait satisfait. J'ai trouvé que c'était une belle direction. L'orchestre s'est très, très bien défendu, a fait de très belles choses.
Bon, il y a encore trois représentations, mardi 6, vendredi 9 février à 18h, et la dernière, le dimanche 11 février à 15h. Vous pouvez encore réserver vos places, bien entendu. N'hésitez pas. Du Théâtre du Capitole, nous nous déplaçons vers Saint-Pierre-des-Cuisines pour revenir maintenant sur le concert lecture que le journaliste et auteur Olivier Bellamy et le pianiste Jean-Bernard Pommier y ont donné lundi. Une soirée dans le cadre de la saison des grands interprètes avec un programme alternant lecture de textes de Colette et pièces pour piano des compositeurs contemporains de la romancière, ceux qu'elle a beaucoup fréquentés, entre autres Ravel, Fauré et Debussy. Jean-Bernard Pommier a joué souvent avec brio, je dois dire, la sonatine de Ravel, la première valse Caprice et le troisième impromptu de Fauré, et plusieurs extraits du livre 2 des Préludes et de Pour le piano de Debussy. Jean-Bernard Pommier, grand spécialiste de ce dernier compositeur, il a d'ailleurs été particulièrement brillant dans l'interprétation de ses pièces. Quant à Olivier Bellamy, on connaît son talent à la radio, dans son émission Passion Classique sur Radio Classique, et pour ma part, j'y ai découvert excellent lecteur des textes de Colette, où celle-ci raconte ses premières rencontres, puis ses relations avec les trois compositeurs joués lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'était souvent passionnant, parfois émouvant, notamment lorsqu'elle évoque les dernières années et la maladie de son ami Ravel. Et puis ce qui était très intéressant, c'est qu'Olivier Bellamy a fait plusieurs digressions, quelques parenthèses dans ses lectures pour brosser le portrait de certains personnages qui évoluaient dans l'entourage de Colette et des compositeurs qu'elle fréquentait. Je pense entre autres à Henri Gauthier-Villars, le fameux Willy, le mari de la romancière, ou à Jacques Rouchet, qui fut très longtemps directeur de l'Opéra de Paris. Bref, c'était une belle soirée musicale et littéraire. On se serait presque cru dans un salon chic du Beau Paris au début du siècle dernier. Moi qui croyais bien connaître la vie des artistes de cette époque, je dois dire que j'ai appris quelques petites choses que j'ignorais. Alors pour nous remettre un peu dans l'ambiance, je vous propose qu'on écoute maintenant Jean-Bernard Pommier interpréter un extrait des Préludes de Debussy. Là, il s'agit du livre 1, Minstrel. Minstrel, un extrait du livre 1 des Préludes de Claude Debussy, interprété ici par Jean-Bernard Pommier. Pour clore la page consacrée au concert qu'il a donné avec Olivier Bellamy à Saint-Pierre-des-Cuisines lundi, et nous restons à Saint-Pierre-des-Cuisines pour un autre concert très attendu, celui qui a donné mercredi le duo Alexandre Tarot-Jean-Guillain Queyras. Un des temps forts de la saison organisée par les Arts Renaissants, le pianiste et le violoncelliste ont interprété un programme entièrement allemand d'œuvres de Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms et Alban Berg. Un voyage dans l'histoire de la musique, de la fin du baroque à la seconde école de Vienne, en passant par le romantisme avec deux grands musiciens. Serge, vous y étiez comme moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert et surtout de son programme ?
Ah ben c'est un programme fabuleux, 300 ans de musique, c'est formidable. Et puis alors je sais pas s'ils l'ont choisi pour ça, mais ils ont choisi les 3 B de l'histoire de la musique. Enfin il manquait Beethoven pour faire le 4e. Non, formidable, hein. Il y a entre eux déjà une complicité absolue, bon, ils se connaissent parfaitement, ils ont enregistré des disques ensemble.
Oui, on sent beaucoup de respect, d'amitié.
Très souvent, hein, ouais. Bon. Mais vraiment c'est une merveille cette association, parce que Alexandre Tarot a un toucher d'une clarté lumineuse. Mais vraiment, on entend toutes les notes. Alors, ils jouent Brahms tous les deux, qu'ils ont enregistré, pour lequel ils ont d'ailleurs eu un diapason d'or. Ils jouent Brahms de manière absolument lumineuse. Quelquefois, on reproche à Brahms d'être un peu massif, un peu lourd. Là, pas du tout, pas du tout. C'est clair, ça coule. Vraiment, le toucher de Tarot...
Ça se voit dans sa gestuelle que c'est.
Ah oui. C'est extraordinaire. Et la belle ronde sonorité de Jean-Guillaume Queyras, ça semble parfaitement avec le piano de Tarot. Donc, c'était magnifique. Alors, le Bach était splendide. Pas romantique du tout, alors qu'on pourrait imaginer quand c'est transcrit du clavecin au piano et de la viole de gambe au violoncelle, ça peut être un peu romantisé. Non, pas du tout, c'était tout à fait clair, tout à fait simple et tout à fait naturel. Et puis les deux Brahms, déjà la deuxième qui est torrentielle, qui débute comme une bourrasque, c'était impressionnant. La première plus classique et plus ancienne, donc, et par laquelle ils ont terminé leur programme, était d'une facture un peu plus classique en ce sens, et vraiment c'était magnifique. Et puis il y avait cette œuvre tout à fait inhabituelle que l'on n'entend jamais, d'Alban Berg, une œuvre vraiment franchement et délibérément atonale, qui est constituée par les 4 pièces initialement pour clarinette et piano, et là dans la transcription pour violoncelle, et qu'ils ont joué avec une simplicité classique, c'est-à-dire c'était pas ni agressif, ni excessif, c'était d'une pureté là aussi de diamant. Donc des pièces très courtes, ça fait 7 minutes pour les 4 pièces. Donc,
c'était un changement d'ambiance radical. Hein,
ah complètement, c'était en début de deuxième partie. Alors il faut se souvenir que Berg, donc, qui avait composé ces pièces pour Schoenberg, qui était son maître en quelque sorte pour la deuxième école de Vienne, hein, du début du XXe siècle. Donc Alban Berg et Schoenberg aimaient beaucoup Brahms. Schoenberg a fait des orchestrations d'œuvres de musique de chambre de Brahms. Et donc c'était une bonne idée d'associer Berg et Brahms. Et en plus, Brahms, ça a prolongé un peu le programme, puisque les 2 bis que les musiciens ont donnés suite à l'accueil très chaleureux du public... Un public qui remplissait complètement.
Ça le comble, oui.
Ah oui.
Et
comble.
Depuis longtemps.
C'était complet depuis très longtemps. Donc, il s'agissait de 2 danses hongroises, de 2 des danses hongroises de Brahms.
Dont la plus connue, la 5e.
La plus connue, évidemment.
Ils ont terminé là-dessus.
Ils ont terminé avec un panache extraordinaire. Vraiment une très belle soirée.
Et puis, deux musiciens extrêmement sympathiques, il faut le dire aussi. Oui. On va les écouter tout de suite, justement, dans un extrait de Brahms. Alors, ça ne va pas être les danses hongroises. La première sonate pour violoncelle et piano de Johannes Brahms, interprétée par Alexandre Tarot et Jean-Guillain Queyras, un court extrait.
Thank you.
fin de cette première partie d'émission avec le piano d'Alexandre Tarot et le violoncelle de Jean-Guillain Queyras, qui interprétait ce court extrait de la sonate numéro 1 pour violoncelle et piano de Johannes Brahms, un des morceaux joués lors de leur concert à Saint-Pierre-des-Cuisines, lors du troisième rendez-vous de la saison des Arts Renaissance, c'était mercredi. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une minute avec Christophe Geller pour parler avec lui de l'ensemble Sonatory, du dernier CD et du prochain concert du groupe. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et notre invité d'honneur, Christophe Geller, violoniste de l'ensemble baroque de Toulouse et de l'ensemble Sonatory.
Mélomanie. L'agenda.
Christophe Geller est donc l'invité de ce numéro. Ceux qui suivent l'ensemble baroque de Toulouse le connaissent bien, puisque la formation dirigée par Michel Brun profite de ses talents de violoniste depuis des années. En revanche, on sait peut-être moins qu'il est aussi violoniste et altiste de l'ensemble Sonatory. C'est pour nous parler de ce groupe que nous le recevons aujourd'hui à Mélomanie, pour parler du CD Baroque Jam Session et du prochain concert que donne l'ensemble vendredi 9 février à 20h30 à la nouvelle salle des fêtes de Balma. Avant d'en arriver là, nous allons faire connaissance par votre intermédiaire avec l'ensemble Sonatory, l'origine de sa fondation, ses musiciens et son répertoire. Et d'abord, une petite curiosité personnelle, le nom de la formation. Sonatory, ça vient d'où ? Parce que comme ça sonne un peu japonisant. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a une musicienne japonaise dans le groupe. Mais en fait, Sonatory, ça n'a rien à voir avec l'Asie. Qu'est-ce que ça signifie, Christophe Geller ?
Alors en fait, Sonatory, ça vient de Il Sonatory, qui signifie les joueurs de musique. Plus exactement. Et donc, on a eu envie d'utiliser ce côté joueur pour donner le nom à notre ensemble.
Donc, Sonatory, Il Sonatory, c'est de l'italien, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Les joueurs, les musiciens, les joueurs de musique. La fondation de l'ensemble, c'est pas récent cet ensemble en fait. Il a une douzaine d'années, c'est ça ?
Oui, elle est née en 2006 avec René Vessière, luthiste, qui a fondé ce groupe donc dans l'idée de justement aborder le répertoire latin qui était à la mode à l'époque baroque. Et en fait, après quelques années de concerts, d'activités, le groupe s'est arrêté suite à des soucis personnels de René Vessière.
Il s'est mis en sommeil, en fait.
Voilà, il s'est mis en sommeil. Et quelques années plus tard, en fait, suite à une vidéo qu'on avait laissée en ligne, on a été rappelé par Martin Kubisch, qui maintenant est directeur musical sur la scène de Vichy. Et à l'époque, s'occupait du festival du Haut Limousin. Et qui m'a contacté, en fait, et qui m'a proposé de remonter l'ensemble pour faire un concert, à la fois dans le cadre de son festival et dans le cadre du festival Oser le Classique dans Bourbonnais. Ça, c'était en 2013.
Donc, Sonatory, 7 musiciens.
Tout à fait.
Alors, vous pouvez peut-être les citer, nous dire quels sont les instruments qu'on peut entendre dans ce groupe.
Donc, une viole de gambe avec Géraldine Brulé, qui joue du dessus et de la basse de viol. Saori Sato, qui est claveciniste, donc qui joue de l'épinette et qui fait des percussions également.
Donc c'est la japonaise du groupe.
Tout à fait, c'est la japonaise du groupe. Il y a Jodel Grasset Saruwatari, qui est essentiellement percussionniste, mais multi-instrumentiste, qui joue du psaltérion à archet, qui joue du oud, qui joue du colachon, qui joue du chalumeau, qui est l'ancêtre de la clarinette.
Des noms très poétiques. Hein. Voilà, je ne sais pas si les gens voient de quels instruments il s'agit.
Du colachione ou colachon.
Mais je les invite à aller voir sur Internet à quoi ça ressemble.
Voilà, le colachon qui est aussi un instrument qui était vraiment à la mode au XVIIe et tombé totalement en désuétude, qui est voilà, une sorte de basse à trois cordes, basse baroque. Ensuite, Benoît Carillon qui est théorbiste, guitariste baroque, qui joue également de la viola. Et accessoirement, du bol chantant dans un morceau.
Quand je vous dis que c'est poétique.
Benoît Albert, qui joue de la guitare romantique et qui joue du Milton aussi, qui est un petit peu l'une des bizarreries de notre ensemble, puisque Milton est un instrument qui est totalement moderne. Voilà, une sorte d'instrument de percussion, ça ressemble un petit peu au pan, qui est en fait voilà, le steel drum, ça s'appelle un steel drum, c'est le vrai mot.
Ce sont des percussions, voilà.
Comme voilà. Ça, on... Ensuite, Nan Yang, qui est donc la chinoise.
La chinoise du groupe.
Qui joue du kucheng, une sitar chinoise.
Et vous-même?
Moi-même, je me mettais au milieu. Donc moi-même au violon et à l'alto. Baroque.
Voilà, violon et alto baroque, il faut le préciser.
Ouais, je précise parce que les instruments, à la base, le groupe a démarré en fait sur l'idée d'aborder le répertoire ancien sur instruments anciens. Même si petit à petit, l'idée c'est d'étendre à la fois sur des instruments beaucoup plus anciens, comme ceux joués par Jodel Grasset, Serlo Guattari, donc qui joue des instruments psaltérion, chalumeau, des instruments qui datent d'une période plus ancienne que la Renaissance, donc je dirais vraiment d'une médiévale, et des instruments plus modernes, donc la guitare romantique, qui donc évidemment est une bizarrerie, et des instruments donc, comme le Milton, qui dénotent totalement avec les autres.
De quels horizons musicaux viennent tous ces musiciens, du milieu baroque bien sûr, mais aussi de la musique traditionnelle, de ce qu'on appelle les musiques traditionnelles, voire d'autres horizons?
Oui, par exemple Jodel, Grasset, Serlo Guattari, lui il vient à la base, je crois qu'il a commencé la musique par du métal. Il était guitariste dans un groupe de métal et il a découvert donc la musique médiévale ensuite, dont il est devenu spécialiste. Voilà, et donc la musique baroque... par conséquence. Ensuite, Benoît Albert, lui, il est multistylistique, de la musique ancienne jusqu'à musique actuelle. Il fait du jazz, de l'impro dans pas mal de styles. Moi-même, j'aborde pas mal de genres musicaux. Je dirais pas que je suis jazzman, mais en tout cas, je goûte un petit peu à tout ce qui pourrait enrichir les autres choses.
Alors, c'est intéressant que vous ayez prononcé le mot jazz, parce qu'on va y venir plus tard en parlant un peu d'improvisation. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle du répertoire du groupe. Il est quand même bien ciblé. Si je dis que c'est le début du baroque, plutôt italien-espagnol, c'est ça ou c'est un peu plus large?
Alors, l'origine du répertoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des danses qui étaient à la mode. Fin de Renaissance, début baroque, vraiment début 16e, ou courant 16e. Donc c'était des danses qui étaient à la mode à la cour. Mais ces danses, pour la plupart, sont originaires d'une période plus ancienne, donc pour certaines qui sont difficiles même à situer, puisque ce sont des danses qui viennent de la musique totalement populaire. Et donc l'idée de notre démarche, c'est d'aller revisiter ce répertoire. C'est un peu comme si une personne actuelle remontait le temps avec sa culture actuelle, et ses envies actuelles, et aller se retrouver avec des gens, ou en tout cas un répertoire très ancien, et aller avoir envie de raconter à l'intérieur de ses improvisations dans le cadre de ce répertoire qui, en réalité, dans son origine, n'a pas vraiment de limite, toute sa culture actuelle. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais
si, moi je crois
ça permet en fait d'annuler, d'une certaine manière, ou d'essayer de faire disparaître des frontières qui ont tendance à mettre la musique dans des cases. Et l'idée, là, c'est vraiment de sortir à la fois géographiquement aussi, puisqu'on intègre des instruments qui sont...
originaires d'Asie, pour certains.
Voilà, le oud qui est africain, voilà, des instruments qui sont décalés, à la fois géographiquement au niveau des couleurs et au niveau du temps. D'ailleurs, on le sait maintenant, en physique quantique, le temps n'existe pas. Donc c'est une manière aussi de...
Là, vous nous amenez encore vers d'autres contrées. Mais donc, est-ce que c'est l'Italie et l'Espagne, quand même, le répertoire, les morceaux, les compositeurs que vous interprétez?
Oui, oui. Au départ, c'est vraiment Italie et Espagne. Et un petit peu le Portugal aussi.
Voilà, donc la péninsule ibérique et la péninsule italienne. Je voudrais qu'on écoute déjà un premier morceau pour que nos auditeurs aient une idée de cette couleur qu'a l'ensemble Suonatori. Ce morceau a pour titre Aria del Gran Duca d'un certain Giuseppe Giamberti, que je ne connais pas, mais vous allez nous dire tout à l'heure qui il était. On écoute d'abord l'ensemble Suonatori. Thank you. C'était l'ensemble Suonatori qui interprétait Aria del Granduca, l'air du Grand-Duc, de Giuseppe Gamberti. Alors qui c'était ce Giuseppe Gamberti?
C'était un compositeur italien qui d'ailleurs, comme la plupart des compositeurs qu'on joue, a écrit de la musique qui était déjà orale, qui a simplement développé, comme Capsberger également, qui l'a beaucoup fait, qui a repris des thèmes qui étaient dansés, qui étaient populaires, et qui les a vraiment inscrits. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de les retrouver à notre époque, hein, ce qui a permis de ne pas oublier ces thèmes. Et donc, il les a développés tels que c'était joué ou dansé. Comme c'est des danses quand même, c'était dansé, voilà, il faut le rappeler.
D'ailleurs, bah, on sent que c'est une musique de
c'est
danse.
C'est une musique dansée,
hein,
totalement, qui était dansée à cette période-là.
Alors, vous avez parlé de jazz tout à l'heure. Ces musiques de danse, vous improvisez sur ces morceaux-là que vous avez choisi d'interpréter. Mais est-ce qu'à la base, la tradition, à l'époque déjà, c'était d'improviser dessus pour les musiciens de l'époque?
Oui, l'improvisation était quelque chose qui était totalement naturel. D'autant que la plupart de ces danses-là, en fait, sont construites sur ce qu'on appelle un ostinato, une basse obstinée. C'est-à-dire une petite formule répétitive d'accord ou de basse. Et sur laquelle, en fait, on peut, ad libitum, improviser, et c'est assez simple, finalement, d'improviser sur ces basses-là, comme ça se fait en jazz, maintenant, ou dans d'autres musiques traditionnelles. Et donc, petit à petit, en fait, cette capacité d'improvisation s'est perdue, on va dire, avec notamment la période classique, où on avait besoin de commencer à tout écrire, même si les grands compositeurs, et notamment comme Beethoven, étaient des improvisateurs... C'est bien connu. Mais petit à petit, en fait, avec le romantisme, on a vraiment perdu cette capacité et qu'on retrouve petit à petit maintenant au XXe siècle avec des nouveaux styles de musique.
Voilà, le paradoxe, c'est que d'une manière moderne, avec des instruments pour certains qui sont modernes, vous renouez avec une certaine tradition très ancienne.
Tout à fait. L'idée, c'est justement dans... Je ne sais pas si ça correspond aux extraits que vous avez choisis, mais en tout cas, dans pas mal des morceaux du CD et du concert, donc vous allez entendre vendredi pour ceux qui viendront, nous avons des plages de liberté qui sont des moments, des zones de liberté totale, totalement improvisées. Bon, évidemment, on garde la structure, comme ça se fait en jazz. Ou parfois, la structure, en fait, on a un code pour savoir à quel moment on se retrouve, où c'est totalement improvisé. Et également, dans d'autres morceaux, où on a choisi aussi de faire des improvisations écrites.
Alors, votre CD, vous l'avez appelé Baroque Jam Session. Alors, Jam Session, là, c'est vraiment un terme de jazz, pour le coup. Je pense que c'est pas innocent d'avoir choisi ce titre.
Non, effectivement, en fait, l'idée, c'était de faire cohabiter plusieurs époques. Déjà dans l'évocation du titre, ce qu'on propose, je pense qu'il y a beaucoup de choses, justement, cette liberté, en fait, elle est dans le titre, la liberté qu'on propose pour le public de voyager, la liberté de l'artiste sur scène, où, enfin, beaucoup de choses sont possibles, en tout cas sur scène, et également la possibilité de voyager entre les époques, c'est-à-dire qu'on n'est pas fixé sur un moment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas de frontières, en fait.
Vous autorisez tout.
On s'autorise, tout est possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité... Alors, certains morceaux sont, comme la Passacaille, par exemple, sont joués tels quels, dans le style, c'est-à-dire que c'était pas forcément un souhait au départ, mais finalement, en essayant plein de choses, puis c'est un programme, en fait, qui s'est construit sur le temps. Il y a des morceaux sur lesquels on a gardé des zones de réelle liberté et d'autres morceaux où ça ne s'est pas fait.
Alors, il faut dire que la plupart des morceaux, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui sont réarrangés par vos soins, et il y a même des compositions originales dans ce CD.
Tout à fait.
Notamment de Nan Yang.
Nan a écrit deux des morceaux qui sont sur ce CD. Il y a également la Miltonetta, qui est une composition plus ou moins collective. C'est justement Miltonetta, parce que c'est une composition autour du Milton.
Milton, dont vous avez parlé tout à l'heure.
Dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais.
On va écouter un autre extrait de cet album, Chacona, une chaconne. Alors, il y a plusieurs compositeurs, quand on regarde le CD, qui sont cités, vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. On écoute d'abord ce morceau. Thank you. Chacon. À Chacon, trois compositeurs, lorsqu'on regarde le CD, sont cités pour ce morceau. Capsberger, Frescobaldi et Cat Satie. Pourquoi trois?
En fait, la Chacon, comme certaines autres danses, la Chacon, c'était probablement la plus célèbre. C'était un essai, on va dire. Tous les compositeurs avaient envie de s'y essayer, ou beaucoup en tout cas. C'était extrêmement à la mode, peut-être la danse la plus à la mode à l'époque baroque. Et donc, forcément, c'est facile de trouver du répertoire, même dans les mêmes tonalités, de la Chacon. Et beaucoup de compositeurs donc, ont écrit ce qu'on appelle des variations ou des diminutions sur le même thème. Et du coup, on a eu envie, donc, sur le principe de la jam session, que chaque musicien puisse apporter son envie sur le même morceau, le morceau, le compositeur qu'il a envie de représenter. Et pour la Chacon, ça s'y prêtait bien.
Donc c'est un collage, en fin de compte.
C'est un collage.
Pas de choix.
C'est un collage, mais c'est la même basse, en fait. C'est la même basse obstinée. C'est la même ostinato. Et donc, on a pris des passages de compositeurs différents qui
autour
qui
de ce fil conducteur de la Chacon et de cette basse obstinée. À Balma, ce concert du 9 février, qu'est-ce que vous allez jouer? C'est vraiment le CD, tous les morceaux qu'on trouve sur ce CD?
Tous les morceaux du CD seront joués au concert. Pas forcément exactement dans le même ordre, mais tout y sera. Évidemment, pas avec les mêmes improvisations, puisque les improvisations, c'est sur le moment. Mais l'ensemble du CD sera sur scène.
Et une particularité, c'est que ce concert est gratuit.
En fait, c'est un partenariat avec la ville de Balma, puisque le CD a été enregistré dans la nouvelle salle des fêtes de Balma, qui est de façon assez surprenante.
Ça sonne bien, ça sonne très bien.
Ouais. Ça, en tout cas, pour un enregistrement, pour le concert, ça je ne peux pas vous dire, puisque je n'en ai pas encore fait.
Mais concert, pour l'enregistrement, en tout cas.
Pour l'enregistrement, c'est un véritable studio. D'ailleurs, j'espère que la ville de Balma va continuer à proposer en fait, cette salle pour faire des enregistrements, parce que c'est vraiment un lieu formidable. Autant du point de vue de la qualité d'aisance pour enregistrer que sur le son obtenu, quoi. C'est vraiment formidable. Et donc, c'est un échange avec la ville de Balma contre le prêt de la salle.
Pour l'enregistrement.
Nous offrons un concert aux Balmanais et évidemment Toulousains.
J'espère qu'il n'y aura pas que les Balmanais qui vont venir.
Toutes les personnes du secteur qui souhaitent venir écouter.
Non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux très très agréables à écouter sur ce CD. Justement, je voudrais qu'on en écoute encore un autre qui a un titre évocateur. Vous connaissez tous la danse du sabre, de Khatchatourian. Eh bien là, c'est Danza de las Hachas, la danse des haches d'un certain Gaspar Sanz, que j'imagine être un compositeur espagnol, et on l'écoute tout de suite interprété par l'ensemble Suonatori. Nous refermons cette longue et très agréable parenthèse Suonatori avec cette danse des haches, Danza de las Hachas de Gaspar Sanz, interprétée par l'ensemble Suonatori. Et je rappelle que l'ensemble se produit à la nouvelle salle des fêtes de Balma le vendredi 9 février pour un concert gratuit qui commence à 20h30. L'occasion d'entendre sur scène tous les morceaux de leur CD Baroque Jam Session, dont vous venez d'avoir quelques aperçus lors de cette émission. Il y a d'autres concerts dans l'actualité de la semaine prochaine, dont un très original, celui que propose le chœur Les Éléments et l'ensemble Ars Nova au Théâtre du Capitole, jeudi 8 février à 20h, sous la direction de Joël Subiette, avec un programme entièrement dédié à des œuvres de ce merveilleux compositeur qu'était Luciano Berio. Voilà ce qui s'appelle un programme osé. Serge Chosy, je crois que vous connaissez assez bien Berio et sa musique, et que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur ce concert et les pièces qui vont être interprétées le 8 février. Berio, personnage étonnant.
Ah ouais, étonnant, complètement. Lui et sa femme Cathy Berberian, pour laquelle il a composé pas mal de pièces d'ailleurs. Bon, c'est un compositeur fécond, imaginatif, formidable, hein, qui a composé toute une série de séquences, et en particulier pour plusieurs instruments et pour la voix également. Et donc, ce sont trois pièces que nous entendrons au cours du concert du 8 février. Ce sera tout d'abord les Cries of London, qui s'inspirent un peu des lointains cris de Paris de Clément Jeannequin, mais remis à la sauce actuelle, évidemment. Donc ça, c'est une espèce de madrigal des temps modernes. Puis, datant de 1964, pour voix et sept instruments, nous entendrons les fameux folk songs, donc chansons populaires en quelque
qui
sorte.
Qui sont des merveilles.
Hein. Qui sont tout à fait des merveilles et qui convoquent un peu le genre populaire dans sa singularité et sa richesse. Hein. Et puis la troisième pièce, plus complexe, s'appelle Labyrinthus 2. Ça a été composé en 65, donc peu après, à l'occasion du 700e anniversaire de la naissance de Dante. Et donc, ça fait un peu état de toutes les richesses stylistiques qui sont celles de Berio et qui rappellent les thèmes dantesques de la mort, du désespoir, de la mémoire, etc. Donc, il y aura le chœur de chambre Les Éléments, dirigé par Joël Subiette, et l'ensemble instrumental Ars Nova sera dirigé par Jean-Michaël Lavoie. Donc, vraiment, trois œuvres riche, intéressante à découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, de Luciano Berio, grand compositeur italien et qui a l'italianité dans le sang.
Oui, alors c'est trois grandes œuvres peut-être, hein. Il y en a deux là, qui seront interprétées, les folk songs, le Labyrinthus 2, alors là c'est vraiment quelque chose de très élaboré, hein. Berio, pionnier de la musique électroacoustique,
oui.
Et dans Labyrinthus 2, là il est allé très loin, et puis bon, il y a la Symphonia là, qui ne sera pas interprétée, c'est peut-être son œuvre la plus marquante.
Ah oui, la plus connue peut-être.
Alors, vous voulez qu'on dise un mot sur les folk songs, parce que expliquer ce que c'est que ces folk songs, c'est inspiré de musique populaire de divers pays.
Voilà, c'est en fait un cycle de mélodies, d'arrangements de musique populaire de plusieurs pays et d'autres chansons. Alors, d'après Berio lui-même, ça forme ce qu'il a appelé un tribut à l'extraordinaire sens artistique de la chanteuse américaine Cathy Berberian. Donc, à l'origine...
Qui était son épouse pendant 15 ans. Hein,
voilà, oui. Voilà. Elle était un peu la muse de Luciano Berio. Et donc, la partition est écrite en fait pour voix, pour flûte et piccolo, donc clarinette, harpe, alto, violoncelle et percussion. Avec deux instrumentistes pour la percussion. Donc, vraiment une œuvre colorée.
Alors, inspirée d'air populaire, de musique, de chants populaires de divers pays. Alors, c'est amusant parce qu'il y a les États-Unis, mais il y a aussi, par exemple, l'Auvergne.
Ah oui, absolument.
Il y a l'Auvergne, il y a l'Arménie,
oui,
je crois qu'il y a l'Azerbaïdjan, évidemment la Sicile, la Sardaigne, hein, Berio était italien. Voilà, donc c'est quelque chose de très bigarré. Ben, je propose qu'on écoute une des folk songs. On va écouter un air originaire des États-Unis. I Wonder As I Wonder, chanté par Cathy Berberian, on ne pouvait pas faire autrement, sous la direction de son mari, en tout cas de son mari à l'époque, Luciano Berio lui-même.
I wonder as I wonder out under the sky, how Jesus our Savior did comfort to die, for poor only people like you and like I wonder as I wonder. Mary birthed Jesus, 'twas in a cow stall, with wise men and farmers and shepherds and all. When out of the heavens a bright star did fall, the wonder of the ages it then did recall. If Jesus had wanted anything, star in the sky or bird on the wing, or all of God's angels in heaven could have seen,
he was the king.
I Wonder as I Wonder, extrait des folk songs de Luciano Berio, interprété par Cathy Berberian sous la direction de Luciano Berio lui-même. Les folk songs sont au programme du concert entièrement dédié au compositeur italien que donne Le Cœur les éléments et l'ensemble Ars Nova au Théâtre du Capitole jeudi 8 février à 20h. Au programme également Cries of London et Labyrinthus 2. Eh bien, il est malheureusement temps de terminer cette émission. Grand merci à tous les trois d'y avoir participé avec l'érudition et la passion que l'on vous connaît. Je rappelle que l'ensemble Suonatori et Christophe Geller sont en concert à la nouvelle salle des fêtes de Balma, vendredi 9 février à 20h30. Une occasion d'y entendre les morceaux du CD Baroque Jam Session. L'entrée est gratuite. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le groupe sur le site www.info-groupe.com/Suonatori et sur sa page Facebook. Au Théâtre du Capitole, les représentations de la Valkyrie se poursuivent les mardis 6 et vendredi 9 février à 18h et le dimanche 11 pour la dernière à 15h. Au même endroit, concert du Cœur les éléments, je le rappelle, et de l'ensemble Ars Nova, jeudi 8 février à 20h pour un programme d'œuvres de Luciano Berio. Renseignements et réservations sur www.theatreducapitole.fr. Je signale aussi les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse avec Thierry Huillet au piano à l'Escale de Tournefeuille à Saint-Pierre-des-Cuisines. Donc c'est le 6 et le 7 pour Tournefeuille et le 8 et le 9 pour Saint-Pierre-des-Cuisines. Un programme d'œuvres de Gabriel Fauré et Ernest Chausson. Vous pouvez réserver sur www.orchestrechambredetoulouse.fr. Je signale aussi le concert Flûte et Flûte que donnent les musiciens des Passions de Montauban. C'est dans la jolie église de Pauillac au nord de Toulouse ce samedi 3 février à 20h30. Vous pouvez réserver en appelant la mairie et vous renseigner sur le site www.les-passions.fr. Il y a un concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole ce même samedi 3 février à 18h à la Halle au Grain. Vous pouvez consulter le site de l'orchestre pour avoir le détail du programme et réserver vos places sur www.onct.toulouse.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Ce numéro est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.